France Inter, il est 19h. Le journal Sarah Guibaudot, bonsoir.
Bonsoir. Au Vatican, le pape François appelle à mener une bataille totale contre les abus sexuels, mais au-delà des formules, peu de concret dénonce les victimes, nous les entendrons. En Corse, les pompiers sont mobilisés du nord au sud de l'île. Le vent violent a attisé de multiples départs de feu, nous ferons le point. Nous irons aussi à la frontière entre la Colombie et le Venezuela avec notre envoyé spécial Benjamin Illy. Le pouvoir de Maduro a réussi à bloquer l'aide humanitaire hier, mais il a sans doute perdu une bataille médiatique. Dans ce journal, reportage sur la caravane de la mairie de Paris qui recueille les doléances et les envoie à l'Élysée. Tapis rouge et gros suspense pour la cérémonie des Oscars cette nuit à Los Angeles. Parmi les favoris, un film qui n'est pas sorti en salle, Roma, ce serait une première. Netflix, qui veut jouer dans la cour des grands, n'a pas lésiné sur les moyens pour faire campagne. Dans Intersport, retour sur la victoire d'un 15 de France rajeuni hier en rugby. En football, l'affiche de ce soir, c'est Monaco-Lyon. Et puis nous irons à Kigali pour du vélo, le départ du Tour du Rwanda. Petit pays, mais grand dénivelé et décor somptueux.
France Inter.
Les mots du pape François ont sonné fort ce matin. Le chef de l'Église catholique a comparé la pédophilie au sacrifice humain des rites païens. Ce sont des crimes abominables, a-t-il déclaré dans son discours de clôture du sommet sur les abus sexuels. Aucun abus ne doit jamais être couvert comme ce fut le cas par le passé, a-t-il promis. Mais au-delà des formules, ce sommet, il débouche sur peu de concret. C'est en tout cas l'avis de certaines victimes. C'est un rendez-vous raté, estime François Devaux, le président de l'association La Parole Libéré, qui aide les victimes du père Prénat dans la région de Lyon. Même déception chez les victimes qui s'étaient déplacées à Rome et qu'a rencontré Mathilde Imberti.
Le discours de clôture du pape est long, presque une heure, et part d'un constat global. Les violences sur les enfants ne sont pas l'apanage de l'Église. Une introduction qui hérisse d'emblée l'association de victimes ECA, Ending Clerical Abuse, Jean-Marie Furbringer, une victime.
Et finalement, le texte noie le poisson en parlant de plein d'autres problèmes, de la pornographie sur Internet, de tourisme sexuel, choses comme ça, qui sont des problèmes graves. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas des problèmes graves. Il a aussi le droit d'en parler, mais enfin, on s'attendait quand même à la fin de cette semaine qu'il pourrait adresser des paroles forte, peut-être encourageant pour ceux qui ont encore un petit espoir que l'Église peut faire quelque chose. C'est pas le cas.
Le pape, dans son discours, assure que l'Église cherchera à ne plus couvrir un seul acte. Cela manque d'engagement concret, selon Miguel Hurtado, une victime espagnole.
Il ne parle pas de l'obligation de livrer les dossiers à la police au lieu de les détruire. Cela a été fait par le passé. C'est le chef des évêques allemands qui l'a révélé. Il ne parle pas non plus de l'indemnisation économique des victimes.
Le Vatican annonce finalement quelques mesures dans l'après-midi. Un vademecum sera rédigé pour rappeler aux évêques les procédures à suivre, plus un texte spécifique pour la curie. Et dans les pays en difficulté, des équipes d'experts seront envoyées. Un agenda de réunion est en place, précisent les organisateurs, qui préfèrent insister sur la prise de conscience générale du drame des abus acquise grâce à ce sommet, disent-ils. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
En Corse, les pompiers font face depuis la nuit dernière à une trentaine de départs d'incendies poussés par le vent qui, heureusement, commence à retomber. Un millier d'hectares de maquis sont partis en fumée la nuit dernière. Le point sur la situation avec Louis-Valentin Lopez.
Et le feu de Calenzana, au nord-ouest de la Corse, est le plus important, à 1250 hectares. Il n'est pas encore maîtrisé. L'opération s'annonce longue et très technique. Des canadaires sont mobilisés. Écoutez le colonel Jean-Jacques Peraldi.
On essaie de tenter des manies, pour enfin des idées de manœuvre, avec les moyens aériens, pour éviter que le feu ne touche la forêt de Bonifat. Alors les trackers ne peuvent pas actuellement larguer à cause des turbulences. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est une situation tendue au niveau opérationnel, parce qu'il y a beaucoup de points qui sont inaccessibles. Je pense qu'on n'y verra plus à partir du moment où le vent va tomber.
Une fois aussi que des renforts seront arrivés au sol, il y a pour l'instant environ 170 hommes mobilisés, des sapeurs-pompiers qui font partie du service d'incendie de secours du département. Ils seront cette nuit renforcés et relevés par l'unité de sécurité de Brignoles dans le Var. D'autres départs de feu aussi, mais moins préoccupants, un notamment dans le sud du département, à Gisonne, où 6 à 8 hectares ont brûlé en pleine forêt. Un autre incendie était en cours à Cisco, tout au nord. Il ne menace aucune habitation. Le préfet, lui, met en garde contre les écobuages, à l'origine de certains incendies, pratique qui consiste à arracher des mottes herbeuses pour ensuite les brûler. Une enquête a tout de même été ouverte pour l'incendie à Calenzana pour déterminer s'il est d'origine criminelle.
Matignon n'est pas favorable à ce que tous les Français payent l'impôt sur le revenu, même 1 euro symbolique pour les plus modestes. Le gouvernement ferme ainsi la porte à une idée évoquée ce matin dans le journal du dimanche par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault.
Le journal de 19h.
sur France Inter.
Au Venezuela, la pression internationale se fait plus forte sur le régime de Nicolas Maduro après les affrontements violents hier aux frontières avec la Colombie et le Brésil. Les camions d'aide humanitaire ne sont pas passés, mais le chef de l'opposition, Juan Guaido, a sans doute remporté une bataille médiatique. Il sera demain à Bogota pour une réunion de crise en présence de 14 pays américains plutôt hostiles au régime de Maduro et du vice-président des États-Unis, Mike Pence. À la frontière aujourd'hui, le président colombien est venu apporter son soutien à l'opposition. Sur place, le reportage de Benjamin Illy.
Alors on voit bien le camion pris pour cible hier, on voit encore aussi des fumées au loin, des médicaments, des aliments incendiés par le régime chaviste. C'est ce que nous disent les députés de l'opposition qui étaient présents sur ce pont. Tout ce qui manque au Venezuela, parti en fumée. Iván Duque, le président colombien, vient d'aller voir les dégâts. Il salue le rassemblement de Vénézuéliens devant lui. On est avec vous, assure Iván Duque. Vous allez retrouver la liberté et le monde est à vos côtés. Un homme là avec le drapeau vénézuélien sur les épaules. Hola, señor, venezolano.
Mi nombre es Carlos.
Carlo.
Somos la resistencia.
La résistance, c'est nous, dit Carlo. Il faut une intervention. Hier, on a lutté contre ces gens en face. On s'est battu avec des pierres. Il y a eu une centaine de blessés de ce côté du pont. Ça, on ne va pas l'oublier. Bientôt, nous serons libres. Et ce que nous voulons, c'est une intervention internationale, militaire, car sinon, on va mourir.
Vamos a morir. Vamos a gritar todos.
¿Quiénes somos?
¿Qué queremos?
Six mois après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, l'Arabie Saoudite joue la carte féminine pour tenter de redorer son image. Le royaume wahhabite va nommer une femme comme ambassadrice aux États-Unis, la princesse Rima Bint Bandar. Au Sénégal, le président Macky Sall espère être reconduit pour un second mandat, pourquoi pas dès le premier tour qui se déroulait aujourd'hui. Le Sénégal est un des modèles de démocratie en Afrique, mais la concurrence était bien dégarnie. Le reportage à Dakar de William Delesseux.
Fatou Niang sort de son bureau de vote. Elle ne dira pas quel a été son choix entre Ousmane Sonko, Madi Kenyan, Issa Sall, Idrissa Seck ou le président sortant Macky Sall.
C'est secret, le vote est secret. Ça, vous le savez mieux que moi.
Tu déposes dans l'urne, tu reprends ta carte et tu mets ton doigt dans l'encre indélébile. C'est fini. C'est tout rouge.
Le petit doigt marqué par l'encre antifraude, cette mère de famille a des attentes pour le futur président.
Si je pouvais lui dire, je lui dirais, l'emploi des jeunes d'abord, le problème de la santé, que tout malade puisse se soigner sans problème. Après tout ça, on veut la paix, rien que la paix.
Chérif Ba, le chef du centre de vote, a attendu aujourd'hui 7000 inscrits. La forte affluence le rend optimiste pour le dépouillement.
Le défi de cette épreuve, c'est faire en sorte que tous ceux qui ont voulu voter parviennent à le faire et qu'au final, qu'on puisse faire le décompte dans la transparence, au su et au vu de tous les participants, membres de bureau, représentants des partis, des ministères et autres parties prenantes du système électoral.
Ça prend combien de temps?
Le dépouillement au maximum une heure. Hein. Tout le monde sera informé de ce qui s'est passé dans chaque bureau de vote.
Le chiffre de la participation à l'élection sera très surveillé. En 2012, près d'un Sénégalais sur deux ne s'était pas rendu aux urnes. Dakar, William Delesseux, France Inter.
Et les premières estimations pour ce premier tour de la présidentielle au Sénégal seront connues dans la soirée. Les autorités iraniennes ont annoncé la libération de la française Nelly Hérin-Cambervel. Cette femme d'affaires martiniquaise de 59 ans était incarcérée depuis le mois d'octobre, accusée d'avoir signé un contrat illégal et de séjour irrégulier. Le tapis rouge est déroulé sur Hollywood Boulevard pour une cérémonie des Oscars riche en suspense. Sur la soirée, d'abord, 100 mètres de cérémonie, le comique Kevin Hart a été mis à l'index pour des tweets homophobes. Et sur le palmarès à venir, les plus nominés sont La Favorite, une intrigue à la cour de la reine Anne de Grande-Bretagne, et Roma, sur l'enfance mexicaine du réalisateur Alfonso Cuarón, un film qui pourrait consacrer le succès de Netflix. La plateforme de vidéo à la demande a d'ailleurs dépensé deux fois plus pour faire campagne, 30 millions de dollars selon le New York Times, que pour produire le film. À Los Angeles, Loïc Piala.
Pour Netflix, la campagne a commencé dès l'été dernier avec le recrutement de la consultante Lisa Tabak. Formée auprès du déchu Harvey Weinstein, elle est une experte dans la course aux Oscars. La stratégie pour Roma a consisté notamment à envoyer aux votants des chocolats mexicains. Un livre de 200 pages sur le tournage ou des posters dédicacés par le réalisateur Alfonso Cuarón. Netflix a multiplié les projections et les fêtes, avec à l'occasion les stars Angelina Jolie ou Charlize Theron en maîtresse de cérémonie. Le géant du streaming a aussi organisé une exposition privée des costumes du film, sans oublier les inévitables publicités dans la presse spécialisée ou les immenses affiches sur Sunset Boulevard. Jamais on n'avait autant dépensé pour la campagne d'un film étranger, certains disent même pour un film tout court. Mais Netflix sait qu'au-delà de la qualité incontestable de Roma, il faut aussi convaincre Hollywood de récompenser une firme qui menace son modèle économique en ne sortant pas ses films en salle. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Parmi les autres films en compétition, Green Book ou Black Panther, énorme succès commercial pour les acteurs Christian Bale dans le rôle de Dick Cheney ou Rami Malek dans celui de Freddie Mercury. Chez les actrices, on parle beaucoup de Glenn Close ou d'Olivia Colman. À 2 mois d'élections législatives où les partis de droite pourraient l'emporter et l'extrême droite faire son entrée au Parlement espagnol, ce qui serait une première depuis la mort de Franco d'après les derniers sondages. C'est une visite mémorielle à visée très politique aussi, à laquelle s'est livré ce matin le président Pedro Sanchez. 80 ans après, il est venu en France rendre hommage aux quelques 500 000 exilés espagnols qui s'y réfugièrent pendant la guerre civile. Le reportage à Montauban d'Alain Gastal.
Il devait rester un quart d'heure. Finalement, Pedro Sanchez a passé plus d'une heure à Montauban avec les associations d'enfants de réfugiés, gardiens de la mémoire et notamment de celle de Manuel Azaña, le dernier président de la République espagnole, injustement tombé dans l'oubli. Pour l'historien Jean-Pierre Amalric.
Il a lancé une série de réformes pour moderniser l'Espagne. L'enseignement, le statut de la Catalogne qu'il a été le premier à faire adopter. Il a été, dans une Espagne attardée, celui qui a voulu la remettre sur les rails.
Pedro Sanchez a ensuite longuement serré dans ses bras Joaquim Paredes, 94 ans aujourd'hui. En février 39, sur le chemin de l'exil puis des camps, il a perdu sa mère refoulée en Espagne et qu'il ne reverra jamais.
Je lui ai dit qu'avant d'arriver à cette fong, j'avais fait déjà le camp d'Argelès, après 6 mois au camp de Bram et 7 mois au camp de cette fong. Pendant 7 mois, j'ai couché par terre. Ma mère, ils l'ont refoulée en Espagne et je ne l'ai jamais plus revue. On ne peut pas l'oublier des trucs comme ça.
Le président du Conseil espagnol était ensuite à Collioure, notamment pour honorer la tombe d'Antonio Machado, le poète mort juste après avoir franchi la frontière et qu'Aragon célébrait ainsi. Machado d'or à Collioure, 3 pas suffirent au tour d'Espagne, que le ciel pour lui se fit lourd, il s'assit dans cette campagne et ferma les yeux pour toujours.
Alain Gastal, la caravane des doléances sillonne Paris depuis quelques jours pour écouter les habitants et répercuter les problèmes au gouvernement. Une initiative de la mairie pour que les citadins ne soient pas absents du grand débat sans doute. Romain Hougue a croisé la caravane Porte de Montreuil cet après-midi.
Il est 14h15 à 2 pas du populaire marché aux puces de Montreuil quand une petite caravane s'installe. À peine 2 mètres carrés, elle est aux couleurs de la ville, rouge et bleu. Ambiance camping, tout y est. Table de pique-nique, thermos à café. Mais malgré le soleil, ce n'est pas les vacances. Ici, on vient pour débattre.
Bonjour, on est là pour collecter la vie des gens, les problèmes qu'ils rencontrent, les difficultés, éventuellement les idées qu'ils ont pour qu'il y ait moins de problèmes.
Après un timide démarrage, rapidement les curieux s'arrêtent et les langues se délient face à la caméra. Cette habitante de Montreuil souhaite alerter Emmanuel Macron sur sa situation.
Je touche que 700 euros. Mon loyer, il est à 519 euros. L'IDF, je paye 189 euros par mois. Donc, qu'est-ce qui me reste? Heureusement que j'ai des enfants, sinon je serais à la rue.
Parmi les problèmes soulevés, la question des retraites, donc, mais aussi l'insalubrité des logements ou encore l'insécurité. Chacune des vidéos doit désormais être analysée par des universitaires et montée pour être envoyée à l'Élysée et publiée sur le site internet de la ville de Paris.
Après 2 ans d'absence à la suite de l'attentat du 14 juillet 2016, le queer naval de Nice est de retour, sous haute sécurité certes. Lors des 2 premières éditions en 2015 et 2016, ce carnaval gay avait attiré plus de 10 000 personnes et il est ouvert à tous, explique Erwan Lehaut, l'un des organisateurs.
On l'a appelé Carnaval Gay parce qu'il est organisé par des bénévoles, des membres d'associations LGBT ou des commerçants LGBT. C'est vraiment un spectacle populaire dans la grande tradition de carnaval. Carnaval, c'est quoi? C'est le moment où tous les codes volent en éclats. Les pauvres deviennent riches, les riches deviennent pauvres, les hommes deviennent femmes, les femmes deviennent hommes. Donc le queernaval se situe dans cette grande tradition niçoise de bouleverser les codes et propose un spectacle, évidemment, ouvert à toutes et tous, petits et grands, et bien évidemment accessible. Il n'y aura pas de grands chars et de défilés de chars. On va installer 2 grandes scènes qui se feront face, et ce sera une succession de spectacles. Il y a plus de 150 artistes mobilisés. des créatures, des drag queens extraordinaires, des batucada, des grosses têtes, un spectacle ouvert à toutes et tous, petits et grands, et bien évidemment accessible.
Propos recueillis par Mathilde Dehimy, le Queer Naval de Nice, c'est à partir de maintenant, place Masséna. L'entrée est à 5 € pour payer le dispositif de sécurité. C'est gratuit pour les enfants et les personnes handicapées. Un coup d'œil sur la route.
Point route avec Calibat, 73 000 entreprises et artisans pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Bonsoir Victoria Coussa, du monde dans le Var ce soir en direction de Toulon.
Oui, sur la 57 à partir du Canet des Morts, un bouchon sur 2 km à l'ouest dans les Pyrénées. Des vacanciers quittent les stations de ski, il y a du monde dans la vallée de l'Ariège. Il faut 20 minutes de plus que d'habitude pour faire 4 km sur la Nationale 20. Des embouteillages aussi en Normandie sur l'autoroute A13 direction Paris, dans l'Eure, au niveau de Beuzeville, près de Rouen, après un accident à Ouessel où 2 voies sur 3 sont fermées. Puis dans les Yvelines à partir de Mantes-la-Ville.
Merci Victoria Coussa au PC Mobilité de Radio France. La météo pour le début de la semaine prochaine.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Encore plus de douceur, Jean-Michel Golinski.
Du beau fixe sur l'ensemble du pays ces prochaines 48 heures avec un soleil radieux en toute région après la dissipation très rapide des brouillards peu répandus du tout début de journée. Et puis, bonne nouvelle pour la Corse où le vent de secteur nord-est va très nettement faiblir. Les températures après les faibles gelées demain matin, en particulier sur la Bretagne, la Sologne, la Bourgogne, le nord-est et des vallées d'Auvergne au sud de Rhône-Alpes, vont l'après-midi grimper plus haut que ce week-end avec une moyenne de 16 degrés demain dans la moitié nord, 19 dans le sud. Mardi, la douceur sera encore plus marquée et souvent supérieure à 20 degrés l'après-midi dans le quart sud-ouest. Mercredi, persistance de températures élevées malgré l'installation d'un ciel plus variable sur la moitié nord du pays.
Intersport avec Martin Bartoletti. Bonsoir.
Bonsoir.
On commence avec du football. L'affiche ce soir de la 26e journée de Ligue 1. Lyon se déplace à Monaco.
Un choc prestigieux mais à la résonance bien différente au vu du classement. L'OL est 3e et toujours en course en Ligue des Champions. Alors que les Monégasques pointent à une décevante 17e place. Mais le retour de Leonardo Jardim sur le rocher a changé le visage de cette équipe. Bonsoir Dominique Poulain.
Bonsoir Martin.
Vous êtes au stade Louis II pour France Inter. Finalement, c'est bien deux équipes en forme qui vont s'affronter ce soir.
Ouais, effectivement. D'un côté, Monaco. En 3 matchs, eh bien, les Monégasques ont pris 7 points et sont passés de la 19e à la 17e place. Vous l'avez dit, depuis le retour de Leonardo Jardim, fin janvier, l'équipe monégasque a retrouvé de la régularité. Et puis, il faut ajouter aussi le recrutement, hein, hivernal où 7 joueurs, eh bien, sont venus renforcer l'effectif. Des joueurs avec beaucoup plus d'expérience. On pense notamment à Fabregas, Naldo, Balotouré ou encore Martins et Silva, et reste maintenant à confirmer, à savoir si le club de la Principauté peut viser plus haut, parce qu'il faut savoir également que cette saison, Monaco n'a pas encore battu une équipe de la première partie de tableau. On va voir ce que ça va donner ce soir, parce que en face, eh bien, c'est Lyon. Lyon qui est solidement installé sur le podium et qui connaît une période euphorique en ce début d'année 2019. Lyon n'a concédé qu'une seule défaite en 7 rencontres de championnat. C'était il y a une quinzaine de jours du côté de Nice. Autant dire que Lyon, eh bien, est déterminé pour empocher les 3 points ce soir à Monaco, naturellement pour consolider sa place sur le podium et puis surtout pour revenir sur Lille, parce qu'en cas de victoire, eh bien, Lyon reviendrait seulement à 2 petits points du LOSC.
Dominique Poulain en direct du stade de Louis II pour France Inter. Vous l'avez dit Dominique, les nouvelles recrues brillent ces dernières semaines à l'image de Gelson Martins côté monégasque. 2 buts en 3 matchs pour le Portugais, bien aidé par un Fabregas décisif. Un mercato impressionnant salué avec un peu d'amertume par l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio.
À partir du moment où on a le droit de changer 8 joueurs, 10 joueurs, 12 joueurs, ils auraient tort de se gêner s'ils ont la possibilité de le faire. Moi, je trouve que c'est plutôt même stratégiquement bien vu de leur part d'avoir pris ces décisions. Et voilà. Maintenant, la vraie question, c'est de se demander s'il n'y a pas des choses à faire pour limiter les mutations dans ce mercato. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi et que finalement, ça fausse un petit peu aussi l'équité d'un championnat, parce que l'équipe qu'on va rencontrer n'est plus du tout la même équipe que celle qu'on a rencontrée il y a même pas 2 mois, quoi.
Coup d'envoi de ce Lyon-Monaco à 21h. Score final, un but partout il y a quelques minutes entre Rennes et Marseille au Roazhon Park. Les Bretons ont réussi à conserver la tête au championnat après leur qualification en Ligue Europa cette semaine. C'est finalement un bon point de prix, Charles Guyard.
D'exceptionnel, la semaine du Stade Rennais s'est arrêtée sur un sentiment satisfaisant, mais partagé néanmoins. Satisfaisante car il pouvait subsister quelques doutes quant à l'état de forme des Bretons après leur long déplacement de jeudi à Séville et la qualification historique en huitième de finale d'Europa League. Partagé car Rennes n'est pas passé loin du dimanche parfait, sauf qu'après avoir ouvert le score face à Marseille à la 7e minute de la tête de Benjamin André, les Rouges et Noirs ont ensuite cédé en deuxième mi-temps, l'OM égalisant à la 56e minute grâce à Valère Germain, également de la tête à la réception d'un centre de Florian Thauvin. Un partout à score final ici au Roazhon Park. Marseille ne réalise donc pas la passe de 4 mais conserve toutefois son invincibilité. Même si le podium, lui, ne s'est pas rapproché, il pourrait même encore s'éloigner davantage en cas de succès lyonnais ce soir à Monaco au stade Louis II. Charles Guyard à Rennes pour France Inter.
Et trois autres rencontres se sont disputées cet après-midi. Nantes s'offre le derby de l'Atlantique, 1-0 face à Bordeaux. Reims est allé s'imposer sur la pelouse de Montpellier, 4-2. Enfin, Toulouse et Caen se sont séparés sur un nul, 1-1. De l'autre côté de la Manche, l'aventure de Claude Puel à Leicester est terminée. L'entraîneur français a été remercié ce matin par les Foxes après une nouvelle défaite hier, 4-1 contre Crystal Palace. Claude Puel restait sur 5 revers consécutifs en Première Ligue. Le technicien laisse son banc 16 mois après son arrivée.
Mais le sourire est revenu sur les visages des rugbymen français.
On n'avait pas vu les dents des tricolores depuis le début de ce tournoi Destination. Après 2 défaites en 2 matchs, le 15 de France s'est enfin imposé. Un succès hier à la maison, 27-10 face à l'Angleterre. Les Bleus ont marqué 4 essais et empochent le point de bonus défensif. Emmenés par la fougue et le talent des jeunes joueurs comme Thomas Ramos ou encore Romain Ntamack, cette victoire ne rassure pas totalement mais elle évite le plongeon dans une crise profonde, Vincent Pellegrini.
Il faut bien entendu relativiser ce succès obtenu face à une équipe écossaise amoindrie par de nombreuses absences. Mais vu le contexte très pesant qui a entouré les Bleus depuis la déroute de Twickenham, il constitue une aubaine pour ce 15 de France en manque cruel de confiance. Et pour l'entraîneur des lignes arrières, Jean-Baptiste Elissalde, cette victoire montre que ces joueurs ont du tempérament.
La notion de caractère pour moi est fondamentale. Ce qui s'est passé dans la semaine, ce qu'on a ressenti sur, en dehors du terrain, les joueurs se sont serrés. On a ressenti aussi les joueurs venir au plus près de nous parce qu'on était remis en question bien évidemment par tout le monde. Cette notion de groupe a été fondatrice de quelque chose. J'espère qu'ils s'en serviront pour le futur. Qu'il ne suffit pas que ce soit une semaine quand c'est la tempête, mais que ça va être chaque semaine, même quand tout va bien.
Disparu le spectre d'un dernier match en Italie pour éviter la cuillère de bois. Dans 2 semaines, les Bleus affronteront à Dublin l'Irlande, un adversaire bien plus redoutable que l'Écosse, avec l'espoir de confirmer les promesses du match d'hier et d'éviter une rechute. Le pilier Jefferson Poirot.
Il faut construire là-dessus et il faut surtout ne pas se mettre en danger derrière en prenant ce match de l'Irlande à la légère parce qu'on peut avoir une grosse déconvenue aussi. En tout cas, on va pouvoir travailler un peu plus dans la sérénité et maintenant, on va pouvoir aller aussi en Irlande armé.
Les joueurs du 15 de France vont retourner dans leur club pendant 4 jours. Ils seront de retour vendredi à Marcoussis.
Et de son côté, le prochain adversaire des Bleus, l'Irlande, s'est imposé cet après-midi. Le 15 du trèfle a dominé l'Italie à 26-16. Un tournoi destination dominé par les Gallois. Le Pays de Galles a battu l'Angleterre hier soir 21-13. Les Anglais ont mené durant plus d'une heure de jeu avant de se faire rattraper par les Gallois. En rugby, qui dit match internationaux ne dit pas forcément trêve pour le top 14. 17e journée ce week-end et Clermont s'est incliné sur la pelouse de Lyon. Le Loup l'emporte 19-13. Un peu plus tôt, Castres a battu le Racing 92-18-9. Les Castrais restent invaincus depuis le début de l'année. 4e victoire de suite en championnat. Un match fermé, pas d'essai mais un succès crucial pour les Tarnais qui recollent à 1 point du top 6. Castres a joué avec la pression des concurrents directs victorieux la veille selon leur coach Christophe Furios.
On a été un peu sous pression de par ces résultats-là. Je nous ai trouvé nerveux à la fin de la préparation. Donc ce qui m'a plu, c'est cette capacité à aller dans ce bras de fer, la capacité à le tenir tout le match et finalement de gagner un match qui était un match très équilibré quoi. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de temps fort d'un côté comme de l'autre, deux équipes qui sont beaucoup neutralisées, qui se ressemblent finalement. Et j'apprécie voilà cette capacité à tenir ce bras de fer parce qu'à un moment donné, tu peux sortir du cadre, tu peux tenter des choses qui sont pas complètement prévues et tu peux te faire contrer.
Et hier, le leader toulousain s'est imposé 27-14 face à Montpellier. Perpignan a enregistré une 16e défaite 20-13 à domicile face à Agen.
Direction l'Afrique maintenant, Martin Bartoletti. Intersport est parti à la découverte de la course cycliste la plus cotée du continent.
Le Tour du Rwanda. Rwanda a débuté aujourd'hui une première étape sous forme d'aller-retour de boucle autour de Kigali. 112 km remportés par Alessandro Fedeli. La course a changé de catégorie cette année. Elle passe en 2.1 dans le classement de la Fédération internationale. Ça veut dire qu'elle se situe juste derrière les grandes épreuves comme le Tour de France. Et forcément, la compétition attire les formations européennes. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Martin.
Vous êtes à Kigali pour suivre la course. À quoi ressemble alors ce Tour du Rwanda ?
Eh bien écoutez Martin, cette première étape qui nous a emmené de Kigali, la capitale, au district de Rwamagana dans l'est du pays, a vraiment donné, j'allais dire, le ton, la couleur de ce qu'est ce Tour du Rwanda. D'abord, il faut le dire, les magnifiques paysages qui défilent sous nos yeux, ces collines verdoyantes où alternent les bananeraies, les champs et les rizières, mais aussi la foule impressionnante le long des foules, des dizaines de milliers de personnes à chaque carrefour au rond-point. C'est aussi ça le sel de ce Tour du Rwanda, une véritable ferveur populaire. Enfin, il y a le tracé, vous le savez, le Rwanda est surnommé le pays des 1000 collines. Un surnom, je vous assure, qui n'est pas usurpé, même si ce matin, ça n'a pas trop grimpé, avec une seule véritable difficulté. Mais dans les prochains jours, ça va se compliquer, avec des cols à plus de 2500 mètres. Le Tour du Rwanda, c'est 8 jours de compétition, un peu moins de 1000 km à parcourir. Donc des étapes plutôt courtes, mais un dénivelé de 19 km. Et ça, c'est vraiment énorme sur une période aussi restreinte. Voilà, Martin, un peu le décor de ce Tour du Rwanda.
Et cette première étape, Jérôme, a donc souri à une équipe française.
Et oui, vous l'avez dit, cette montée en gamme de l'épreuve a permis de faire venir des équipes professionnelles d'Europe et notamment la formation française de Delco Marseille-Provence qui a montré ses muscles ce matin. Victoire d'étape avec le jeune espoir italien Alessandro Fedeli. Delco qui a 3 de ses coureurs aux 4 premières places. Le directeur sportif Andy Flickinger est pourtant loin d'être euphorique.
On est seulement 4 coureurs, donc on va pas s'enflammer, la course elle est encore longue. Demain c'est une étape qui peut être compliquée. L'année dernière le général s'était fait là-dessus. Donc voilà, non, on va être conquérant, on va courir à l'avant. Et après il y a pas mal d'équipes qui veulent aussi cette victoire au général. Donc tout le monde travaillera ensemble, je pense.
Et parmi ces coureurs, Martin, ces coureurs de Delco Marseille, il y a Joseph Areruya. C'est la star du cyclisme rwandais, élu meilleur cycliste africain l'an dernier et qui avait remporté ce Tour du Rwanda il y a 2 ans.
Merci Jérôme Vallon, direct de Kigali au Rwanda grâce aux moyens techniques assurés par Fabien Gosset. Au tournoi de tennis de Marseille, c'est le grec Stefanos Tsitsipas qui l'emporte. Il l'a battu en 2-7, 7-5, 7-6 le kazakh Kukushkin. Tsitsipas décroche à 20 ans son deuxième trophée après celui de Stockholm l'an dernier.
Le site de Roland-Garros continue de se refaire une beauté.
J-91 avant les premiers coups de raquette dans le tournoi de tennis parisien. En travaux depuis la fin de l'édition 2018, le court Philippe Châtrier devrait être prêt pour présenter son nouveau visage cette année. Sa capacité restera d'environ 15 000 places, mais le confort et le design du court central ont été totalement retravaillés. Et 900 ouvriers qui suent jour et nuit sur le site livrent une course contre la montre. Boris Boutet a enfilé son casque de chantier pour suivre les travaux.
3 mois avant les premiers échanges de balles, le bruit assourdissant des disqueuses et des marteaux-piqueurs tranche avec l'ambiance habituellement feutrée des matchs de tennis sur le court Philippe Châtrier. Un court où la poussière du chantier a pour l'heure remplacé celle de la terre battue. Mais pour Gilles Jourdan, responsable du projet, ces travaux de modernisation étaient indispensables pour Roland-Garros, en retard sur les autres tournois du Grand Chelem.
On avait un stade qui était un peu vieillissant. Il y a des nouvelles technologies qui allaient faire entrer dans la structure. La profondeur des gradins et l'anthraxe des sièges est beaucoup plus grande. Et donc, on a un vrai confort quand on est assis dans les gradins maintenant. Puis on en profite pour changer de look. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les coins arrondis, ça n'existait pas avant ici. C'était ouvert et rectangulaire. Donc, voilà, ça change tout, ça, quand même, dans la vision du central.
Un central que les spectateurs ne pourront plus contempler assis sur les traditionnels fauteuils verts qui ont été remplacés cette semaine par des sièges en bois, les mêmes que ceux du cours Suzanne Lenglen. Pas de quoi, a priori, perturber les joueurs qui seront plus attentifs aux nouveaux vestiaires ou à la salle d'échauffement encore en travaux, mais aussi et surtout aux conditions de jeu que le chantier a pu faire évoluer, selon Gilles Jourdan.
C'est sûr que le vent va s'engouffrer différemment, le soleil peut-être. On étudie ça avec des logiciels, etc. Mais enfin bon, rien ne remplace quand même Nadal sur le court qui vous dit c'est de la merde.
Des mots que l'on a du mal à imaginer dans la bouche de Rafael Nadal, 11 fois vainqueur à Roland-Garros, et qui ne devrait pas être perturbé par ce nouveau décor.
Et le reportage de Boris Boutet a noté la 4e place aujourd'hui sur le slalom géant de Bansko en Bulgarie pour Alexis Pinturo. Le Savoyard est quasiment sûr de rater le gros globe de cristal de la compétition, beaucoup trop loin de l'Autrichien Marcel Hirscher.
Merci, c'était Intersport avec Martin Bartoletti.